je pis comme au figue. Il y a une source.
CO2, mon amour.
Il y avait une petite source.
Oh, moi, je l'ai vue, elle était très belle.
Moi aussi, je l'avais vue quand j'étais petit à la chasse avec mon père. Ça m'avait semblé comme un vrai ruisseau.
Oui, oh, tu devais être bien petit alors. Et c'était sûrement après un orage. Parce que moi, j'y ai bu il y a peut-être 30 ans. Et ça coulait gros comme mon doigt.
Avec Denis Chessou.
Tu crois que ça peut se perdre, une source comme celle-là?
Tu sais, je le connais bien, moi, le caractère des sources. C'est comme une belle fille. Quand on les oublie, elles s'en vont et c'est fini.
Sur France Inter.
Eh bien, vous savez quoi, ça fait du bien de vous revoir, oui, dans des conditions normales, c'est-à-dire masquer. CO2, mon amour, les carnets de nature de CO2, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec aujourd'hui Arnaud Caillé à la technique et assisté de Camille Blanès. C'est Xavier Pessugia, cette saison, qui réalise l'émission. Et qui commence toujours par une petite humeur, vous le savez bien. Alors vous avez vu comment j'ai mis le bazar. Mes autres copains virus m'ont même décerné une médaille. D'autres ont fait plus de dégâts, mais heureusement, faute de masques et de tests, on vous a enfermé à clé chez vous. En revanche, je suis devenu docteur honoris causa d'économie décroissante. Ah ouais, là, respect. Je suis le premier qui vous a aidé à réduire autant la voilure, à calmer vos certitudes économiques. La nature éternue, les humains tous, ça énerve les surhommes qui se croient au-dessus. De ce nouveau virus, on ne connaît pas bien les coutumes et les us. Ouais, stop, lâchez-moi les cailles, arrêtez de me braconner, de me finir en soupe, moi j'y suis pour rien. Gueula le pangolin. Alors je sais pas dire si un pangolin, si ça gueule, si ça croit, si ça jappe. Bon, on va dire qu'il pangoline. Eh ben nous non plus, on n'y est pour rien, dirent la civette et la chauve-souris. Eh oui, comme souvent, vous tronçonnez et vous me faites sortir du bois et hop, je viens me coller à vous. Alors la vie se purge comme une cocotte minute en convoquant les cyclones d'un côté, les virus du diable de l'autre. Quelle est la part du feu, la part de l'erreur, la bourse ou la vie, l'enfer c'est les autres. Et moi, est-ce déjà mon heure? Film catastrophe, on aime se faire peur. La SF a tout dit, la réalité nous comble, la vie est plus forte que le cinéma. Et le métier d'humain, bah écoutez, c'est de vivre et de survivre en acceptant les peines, en acceptant les joies. Alors, le climat et la biodiversité, on les glisse sous le paillasson à la sortie, monde de quoi qu'ils disent, d'après? Doit-on revenir au même et remettre une pièce à consommer et jouir et des milliards dans la machine à détruire? Et notre ministre de l'écologie d'ailleurs a dû avaler une petite couleuvre en forme de betterave aux nicotinoïdes, j'y reviendrai parce qu'il y a un projet quand même qui n'est pas piqué des hannetons. Précaution pour le virus, bien sûr, mais en fait, en fait-on autant pour se protéger des pesticides, de la malbouffe, des pollutions, de la bétonisation des sols, du soja OGM importé à coup de déforestation, de la 5G qui nous fourguera ses bonnes ondes et ses milliers d'objets avec qui on n'a pas envie de communiquer. Solitude numérique, des foules sentimentales qui ont soif d'idéal, qui dépassent un PIB aujourd'hui obsolète. Alors tout cela est fait pour les fouisseurs du monde qui rongent l'os de la terre, étouffent l'air et les astres, jettent leurs démons incontrôlables au fond des mers en s'entourant d'une armée d'avocats. Mais il y a des avancées, hein, car pendant un an, nos amis premiers écologistes de France, comprenez les chasseurs méditerranéens, ne pourront plus scotcher les oiseaux à la glu au nom d'une joyeuse tradition humaniste. Mais en même temps, oui, le fameux en même temps, attention à la diversion, car autorisation de transformer 18 000 tourterelles des bois en 18 000 petites flaques de sang. Et je rappelle que c'est une espèce qui est à l'agonie, avec une demande de la Commission européenne de ne pas les tirer. Mais on est en France. Le virus écoutait et se disait « Si au moins après ce choc, vous vous mettez à agir enfin collectivement, je n'aurai pas perdu mon temps. » Et vous pouvez encore le faire. Il faut toujours terminer, vous savez, par une bonne nouvelle. Alors, les souris sur qui sont testés les vaccins ne stockent ni paquet de nouilles, ni rouleaux de PQ. C'est donc une autre avancée et ça, il faut la saluer. Méli Mélo de sujet, oui, mais Mélo E-A-U. Michel Serres nous disait à ce micro, la fin du pétrole, ce n'est pas la fin du monde, mais l'eau, oui. Alors ça va être l'eau au fil de nos ondes, ondes sur un fil, trois ambiances, trois couleurs et la même eau du ciel. On partira dans les Corbières, dans l'Aude, pour une chronique de l'eau dans un village sans eau avec Frédéric Lisac. Nous écouterons parler les eaux souterraines du gouffre de Padirac dans le Lot. Et pour débuter la saison, prenons de la hauteur au pic du Midi de Bigorre après de 2900 mètres d'altitude dans les belles Hautes-Pyrénées. Pic dédié à l'astronomie à l'origine et sauvé aussi par le tourisme. Nicolas Bourgeois, géographe, jeune directeur adjoint de ce pic, devenu première réserve de ciel étoilé de France, nous accueille dans ce lieu superbe.
Dans les Pyrénées, j'avoue qu'on est de plus en plus gêné à parler de glaciers parce que comme on les regarde hein, depuis le pic, que ce soit celui du Néouviel, de l'Asneus sur le Balaïtous.
Le Néouviel qui veut dire les vieilles neiges.
Exactement, les vieilles neiges parce que bon, comme beaucoup de public ici, on a tendance à vouloir voir les neiges éternelles, comme on dit en montagne. Bah, ces neiges éternelles, les voici, hein, ce sont ces trois petites taches qui se battent à duel à l'ombre des sommets. Et là-bas, le glacier du Vignemale ou encore le glacier du Balaïtous, qui sont des lentilles de neige et qui réduisent, mais à vue d'œil depuis le pic du Midi, on peut l'observer.
Alors on a quand même ces précipitations donc, qui viennent de l'ouest principalement, qui arrosent le Pays Bas, c'est bien pour ça qu'il est vert. On est aussi ici, enfin il y a des coins, je vais presque dire que ça ressemble à la Normandie, on ne va pas exagérer quand même, mais c'est quand même extrêmement vert alors qu'on est en plein été.
Oui, parce qu'on a un blocage montagnard, hein, toutes ces entrées atlantiques elles vont être bloquées d'un côté, et comme on le voit, il suffit de basculer en Espagne pour se retrouver quasiment au Mexique, hein, d'un point de vue climatique. Et le problème, c'est qu'on a aussi des massifs très calcaires, donc cette eau qui tombe et qui ne gèle plus, qui ne tombe plus sous forme de neige, elle s'infiltre très vite et elle part. Et l'avantage que l'on a en montagne et côté français, c'est qu'on a un stock de neige dans nos montagnes, mais comme on le voit ici, ce stock de neige à l'été, il devient quasiment inexistant. Et la météo change au fur et à mesure de ce stock de neige qui disparaît.
Comment on gère, on va dire, l'eau dans ces Pyrénées, parce qu'on sait que ça fonctionne avec le tourisme. Et quoi qu'on en dise, des skieurs, il y en a, mais le réchauffement, il est bien présent, et donc ça va être une espèce de course en avant avec des canons à neige, mais comment on prend le problème ?
Aujourd'hui, malheureusement, on peut être des mois de décembre où il fait encore 20 degrés dans les stations de ski, donc on tasse la neige, on essaie de la maintenir. Ce que je vois s'organiser, ce qui est positif, on le voit depuis le pic, hein, c'est qu'on commence à comprendre que l'économie de la neige, il faut qu'elle s'enrichisse d'une économie aussi estivale, que les pratiques changent, que les demandes des pratiquants changent. On ne veut plus forcément de faire du ski à tout prix, on en connaît le prix justement. Et nous, sur le pic du Midi, on est une bonne leçon de ce caractère précieux de l'eau, parce qu'on est à 3000 mètres d'altitude. Vous voyez, cette eau, nous, elle nous est montée par le téléphérique ou pompée du lac Doncé, et on n'a que celle-ci. Donc demain, notre pic sans eau, on va pas venir assoiffer les gens qui y travaillent.
On voit plein de petits yeux qui sont autant de lacs. Hein. Alors, Lannemezan est au loin, Toulouse de l'autre côté, on pourrait presque voir Barcelone aussi aujourd'hui. Mais on voit donc dans ces premiers plans donc, tous ces petits lacs, et qui sont principalement des retenues, là cette fois-ci, on va dire naturelles. Ce n'est pas des réserves. Hein, donc.
Exactement, mais juste en dessous, là, on voit le lac d'Arize, là-bas au fond, le lac de l'Œuf. Et ces petites taches blanches que l'on voit, des toutes petites lentilles comme ça, ce sont des vaches qui sont venues s'y désaltérer. Et exactement, ça, ce sont toutes des retenues naturelles qui témoignent d'une forte irrigation des Pyrénées françaises. Le problème, c'est comme on le voit, la neige étant de moins en moins abondante à l'hiver, eh bien ces retenues, elles sont de moins en moins alimentées. Et au fur et à mesure, on a cet effet d'entraînement où on va voir tout doucement le climat devenir davantage méditerranéen, alors que l'on voit toute cette verdure-là, on est vraiment sous une influence atlantique.
Alors là, on se tourne, on regarde, on a le Vignemale, qui est, on va dire, un des plus grands sommets. Il y a le pic d'Aneto, hein, ne l'oublions pas, c'est le premier sommet, donc à plus de 3400 mètres d'altitude dans les Pyrénées-Orientales. Et là, on regarde, on a le Balaïtous.
Tout à fait.
Celui-là est aussi donc un sacré marqueur.
Alors le Balaïtous, déjà, il a une caractéristique, c'est le premier 3000 de la chaîne des Pyrénées, 3144 mètres. Et alors, moi, on m'a raconté une histoire, c'est mon beau-père qui m'a raconté cette histoire. Il est chef de secteur au Parc National et il a commencé à étudier et à suivre ce glacier au début des années 90. Et quand il est arrivé sur le glacier, il avait fait une petite marque à l'époque pour suivre ce qu'on suspectait déjà à l'époque, c'est que la neige et les glaciers fondaient. Et il y est retourné récemment et cette petite marque, il a bien eu du mal à la trouver. Il a dû lever la tête et elle se trouvait à 35 mètres au-dessus de lui. Donc le glacier, depuis les années 90, on n'est pas si loin après, a perdu 35 mètres de hauteur.
Alors on peut imaginer aussi plein de sources hein, que l'on a sous les yeux. Il y en a plein, donc après qui vont se transformer bien sûr en torrents très vite, qui vont descendre, qui vont grossir. Après ça va s'appeler des gaves, hein, donc ici.
Exactement, et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que on voit ici le parcours de l'eau. On voit la neige arriver et se former sur le pic du Midi. On la voit ensuite rejoindre les petits ruisseaux qui rejoignent eux-mêmes des gaves qui eux-mêmes finissent par tous se regrouper pour former l'Adour qui se jette au niveau de Bayonne, côté Atlantique.
Et d'où la fameuse chanson et le slogan « Vertige de l'Adour ».
Oh, n'est-ce pas ? Les fameux vertiges de l'Adour. Pas loin d'Argelès-Gazost si on a le vertige. C'est bien ça, oui. Ouais.
Ouais. Merci beaucoup Nicolas Bourgeois, à bientôt.
Au revoir Denis.
On y reviendra donc un peu plus tard dans la saison, là sur un sujet beaucoup plus complet sur ce pic du Midi de Bigorre. Allez, on poursuit notre voyage, on va aller dans les Corbières avec Au fil de l'eau, toujours dans cette émission qui vous envoie de l'air et de l'eau. Choisi par Thierry Dupin, c'était Les Fields et les expressions.
Bienvenue dans nos belles montagnes.
CO2, mon amour.
Jean-Stéphane Labourdette de la Voix des Pyrénées. Je vous pose 3 questions, je fais 2 photos et vous ne me reverrez plus. Pourquoi les Pyrénées, André ?
Depuis quelques semaines, ma femme est en proie à d'intenses crises de nymphomanie. Et j'ai pensé que les Pyrénées étaient la destination idéale pour mettre Aurore à l'abri de toutes ces tentations.
Non, allez, plus sérieusement, Aurore.
Oui.
Avec Denis Chessou.
Eh bien, pour moi, les Pyrénées sont synonymes de virilité, de sauvagerie, de mystère.
Oui, non, c'est pas facile de passer donc après ça. Choisi par Xavier Pestudia. On va pas très loin d'ailleurs, on va dans l'Aude à 20 kilomètres de Carcassonne, non loin de Lagrasse à présent. On n'est pas loin de l'entrée hein, du pays Qatar que vous connaissez peut-être si vous revenez là, qui nous écoutez en voiture. Et donc face à nous, vous avez des vignes, des collines, des forêts malheureusement inflammables, de l'harmonie, le gracieux désordre des hirondelles dans le ciel. Et donc là, on va être sur un mini échelon extrêmement local, mais tonique et oxygénant. Avec Frédéric Lizat, qui est naturaliste et créateur des éditions Plume de Carotte à Toulouse, et aussi créateur de nature. Et en fait, demain, on le sait, les extrêmes vont s'amplifier. C'est-à-dire qu'on aura à la fois, même dans nos pays tempérés, trop d'eau d'un coup, inondation, et pas assez, donc sécheresse.
Bonjour Denis. L'eau, et surtout son absence en fait, son absence permanente. Évidemment, il y a de l'eau, on a des pluies, on a un climat méditerranéen, pas très loin, à 40 km de la Méditerranée. Mais il y a très peu de sources, notamment dans ce village, ici où on est à Réqui. Donc on est sur le côté sud de l'Alaric. L'Alaric, c'est cette petite chaîne de montagnes qui est vraiment le début nord des Corbières. Ça commence à être bien vallonné avec ses anciennes buttes calcaires, avec ses creux d'argile où pousse la vigne. Mais c'est pas des hautes montagnes. Du coup, ce sont des bassins versants très courts. Et quand il y a des fortes pluies, vous avez de l'eau dans les ruisseaux, même il y a des gorges qui coulent pendant quelques jours, mais très vite ça s'arrête.
Et vous avez souhaité, donc Frédéric, nous proposer donc cette chronique de l'eau dans un pays sans eau.
Oui, sans eau permanente, particulièrement dans ce village, parce que ce village n'a aucune source. Alors comment ils faisaient ? Pourquoi ils se sont installés là ? Parce que quand même, en général, on s'installe là où il y a de l'eau. D'abord, ils avaient des systèmes de récupération d'eau, et notamment, chaque maison ici a 1 ou 2 puits. Tenez, regardez, je peux vous en montrer un. Là,
ah ouais.
Ici, vous avez un puits qui fait un mètre en pierre, vous voyez, sans maçonnerie, qui fait 1 mètre de diamètre, mais surtout qui fait 7 mètres de profondeur. Donc vous avez 6-7 mètres cubes d'eau, mais ce n'est pas un puits de source, c'est un puits d'infiltration. C'est-à-dire qu'il se remplit. Là, il a bien baissé parce que cet été, on s'en est servi pour arroser le potager. Mmh. Et il ne se re-remplira pas avant l'automne parce qu'encore une fois, il n'y a pas de source. Par contre, c'est des puits qui sont conçus pour, par infiltration de l'eau, quand il y a les pluies d'automne et d'hiver, se remplir, rester rempli toute l'année tant que vous ne tirez pas d'eau, avec une eau hyper fraîche, elle est à 12-13 degrés. Ouais. Je pense qu'ils s'en servaient de boisson même. Donc voilà, ils avaient ces puits. Voilà, on referme pour le laisser à l'ombre. Ils avaient aussi des grosses cuves où déjà ils collectaient l'eau des toits. Il fallait aussi avoir de l'eau pour le potager. Alors, il n'y avait pas de potager dans le village. La solution qu'ils ont trouvée, c'est les potagers. Ils les ont fait à 800 mètres d'ici.
Ah ouais.
Là, vous voyez cette petite tache verte qu'on voit là-bas dans l'angle de la route.
Et qui est presque dans le virage géologique.
Eh bien oui, et là il y a une source.
Ouais.
Presque permanente. Il y a une source, eh ben, ils n'étaient pas bêtes, c'est là-bas, il fallait marcher, mais c'était là-bas qu'ils avaient mis leur potager. Même si l'eau est là, comme je viens de vous le dire, dans les puits, dans les collecteurs, il n'y a pas d'eau permanente, on a eu envie de créer un lieu de vie autour de l'eau. Et c'est pour ça qu'on a fait ce petit bassin naturel.
Ouais.
Donc c'est pas grand, ça fait, vous avez en tout 25 mètres carrés de surface, il y a deux bassins de plantes. Il y a un bassin avec des plantes de pleine eau, c'est-à-dire qui vivent en grande partie dans l'eau, comme des myriophiles, des nénuphars. Là, donc, c'est plutôt des plantes oxygénantes, je dirais. Et puis, vous avez l'autre bassin, qui sont les plantes qui ont besoin d'avoir les racines dans l'eau, mais qui ne vivent pas immergées. Ah ben, c'est les papyrus, la menthe aquatique, les massettes. Vous avez une salicaire en fleurs, là, qui est assez jolie. Et ça, c'est plutôt la filtration, c'est-à-dire le réseau racinaire se développe beaucoup. Et donc, avec cette double
filtration naturelle,
filtration racinaire, voilà, et oxygénante, vous avez une eau en circuit fermé qui donne une eau qui reste très belle, très claire et surtout qui attire une foule de bestioles.
Faites revenir, on va dire, cette biodiversité, on va dire, cette nature, donc végétale, oui, et bien sûr animale, puisqu'il y a un féodé. On rappelle que d'abord, ce ne sont pas des espèces qui ont été importées du tout.
Non, c'est des espèces qui viennent du coin, certaines qu'on a ramassées dans des fossés humides. Alors, quand vous avez des ailes, c'est facile. Là, on vient de voir passer une libellule, là, qui apparemment, elle va essayer de pondre, même. Voilà. Avec des ailes, là, vous voyez toutes les abeilles, toutes les guêpes qui viennent boire. Mais comment vous faites quand vous êtes un triton?
Ah oui,
triton palmé.
Triton palmé,
ça fait 6-7 cm. Eh bien, ce bassin, on l'a mis en eau il y a 8 ans, en novembre. En février, il y avait des tritons. Et je vous ai dit, le plus proche point d'eau, c'est ces fossés humides là-bas, à 800 mètres. Donc, au mieux, ils sont venus de là-bas. Comment ils ont fait avec leurs petits 6-7 cm pour sentir...
Sans un seul point d'eau, oui, d'abord sentir.
Voilà, qu'ici, il y avait de l'eau qui pouvait s'installer. Alors, je pense qu'ils ont profité, évidemment, de périodes de pluie,
ouais,
où les fossés se remplissent et puis ils partent en exploration, tout simplement. Il y a des rainettes méridionales aussi, mais ça, elles étaient déjà présentes un peu dans le village parce que ce sont des batraciens qui ne sont pas 100% inféodés à l'eau, qui viennent pour pondre, qui viennent pour leurs amours, mais qui peuvent rester des semaines et des mois dans des lieux un peu frais, dans des murets, des choses comme ça.
Alors, je suis un serpent.
Ça alors, voyons, qu'est-ce que c'est que ceci?
Qu'est-ce que je fais?
Alors, je suis un serpent.
Il y en a, ici, quand même.
Il y en a, effectivement. Ouais. Il y a pas mal de couleuvres dans le coin, la fameuse couleuvre de Montpellier, la couleuvre verte et jaune. Et il y en a deux qui aiment beaucoup l'eau. Eh ben, j'en ai vu, ici. C'est la couleuvre à collier et la couleuvre à échelon. Alors, celle-là, elle est extraordinaire parce que, uniquement quand elle est jeune, sur le dos, on dirait vraiment qu'il y a des petits échelons d'une échelle. C'est à ça qu'on la reconnaît. Pareil, comment sont-elles venues? Comment ont-elles senti qu'ici, il y avait de l'eau? Et ont décidé d'en profiter, quoi.
Et alors là, c'est aussi le bal des oiseaux. Ça, c'est extraordinaire. Ah, oui. Et en fait, ils arrivent, j'ai presque dire, par catégorie.
Ah, oui, il y a des horaires. Ils sont très bien organisés. Alors le matin, c'est l'heure des piafs, c'est l'heure des moineaux, qui viennent en bande, de là sur la petite bande où il y a un peu d'eau, qui se font leur toilette, qui jouent, qui s'amusent, et il n'y a pas d'autres oiseaux. Après, dans l'après-midi, dans les plus fortes chaleurs, vous avez quelques petits rouges-queues noires qui viennent. Là, ils viennent plutôt chasser. Ils viennent, parce qu'il y a toujours des petits moucherons, des petits insectes, des choses comme ça, et ils viennent se nourrir. En fin d'après-midi, c'est le balai des hirondelles. Les hirondelles rustiques qui viennent, mais qui viennent d'une façon très particulière. Elles ne se posent pas.
Ouais.
Elles font les canadaires.
C'est ça.
Elles font du rase-motte, du rase-eau pour boire, juste en effleurant avec leur bec la surface de l'eau. Alors ça, c'est assez stupéfiant. Et quand la nuit tombe, vous avez aussi des chauves-souris qui viennent. plutôt pour chasser, pour tous les petits moucherons.
Bon, et le moucheron, évidemment, va servir d'aliment à tout le monde.
Ah bah oui, là-dedans, effectivement, vous avez les oiseaux, je viens d'en parler, vous avez des larves de libellules, vous avez des ditiques, j'ai vu ici plusieurs fois des ditiques, enfin, vous avez tout un cortège de petites bestioles, ce qui fait que ça, c'est un point que je voulais souligner important. De l'eau ici, on pourrait penser moustique. Et évidemment, moustique tigre, dans le sud-ouest, dans le grand sud, il y en a beaucoup. On n'a pas un moustique ici, tout simplement. Parce que même s'il y a des pontes, évidemment, vous avez tout ce qu'il faut comme cortège de prédateurs naturels qui éliminent les larves. Et donc, le fait que ça soit en équilibre fait qu'il n'y a pas de prolifération, notamment de moustiques.
Vous poursuivez, en fait, un peu le travail des anciens, même si vous n'êtes pas directement vigneron ou bien cultivateur, mais que l'on peut quand même s'en sortir, à condition peut-être de ne pas être trop gourmand en eau, mais sur des coins où, a priori, c'est l'aridité qui est maître des lieux.
C'est exactement ça, parce qu'effectivement là, l'alimentation en eau se fait par les gouttières, se fait grâce à ces deux puits de collecte. Évidemment, à la fin de l'été, on a fini par les vider, parce qu'avec l'évapotranspiration des plantes, avec le vent aussi, le niveau baisse, donc on alimente. Mais on ne met, allez, je ne vais pas dire jamais, je vous mentirai, mais quasiment jamais d'eau de ville pour remettre à niveau le bassin. Et surtout, c'est moi ce que je trouve fabuleux, c'est que ce n'est pas encore une fois que l'eau, c'est toute la vie qui est revenue dans ce village, autour de ce bassin, qui n'y était pas parce qu'il n'y avait pas d'eau. L'eau est un point de départ, évidemment, pour cet ensemble de cortèges de plantes, d'animaux et tout ce qu'il peut y avoir autour.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ces corbières, vous, ici ?
Mais parce que justement, on est dans un climat qui peut être rude, et pourtant c'est un pays doux, pour moi. Il est doux dans son équilibre entre la présence naturelle et la présence humaine. Vous avez cette coexistence en permanente, là vous regardez de tous les côtés, il y a très clairement des coins sauvages et des coins cultivés où l'homme est là, en l'occurrence principalement la vigne. Voilà, moi j'appelle ça un paysage doux.
Ben merci Frédéric Lizac et puis à très bientôt.
Avec plaisir, au revoir Denis.
Un homme qui refait, comme sûrement pas mal d'entre vous, donc de la nature, qui refabrique de la biodiversité, donc Frédéric Lizac. Éditeur des éditions Plume de Carotte. Bon, je rappelle toujours que l'eau, là, même si c'est pas le thème principal, mais c'est un des 17 objectifs mondiaux du développement durable, l'accès à l'eau, donc salubre et aussi à l'assainissement. On n'a pas fini? Non, un troisième lieu dans quelques instants, ça va être Padirac.
On se ramène les cheveux vers l'avant. Photo le soir, mon voyage en Angleterre me met un petit cafard capillaire. Là, le train vient s'allonger d'une manière un peu intime le long du bateau à quai à Calais maritime. Là, c'est pas New Haven, on voyait les falaises, on sautait sur le gangway. À nous les petites anglaises. On se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant. Là, la fille de la maison, Deborah Valentine, sur le piano du salon, jouait du ragtime. Je voyais ses cheveux bouger, balancés par le rag, et ça me faisait un effet vague. On se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant. On se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant.
Eh ben oui, quand on en a moins, on s'y ramène les cheveux vers l'avant. Mais vous verrez ça, vous verrez ça. Bah écoutez, à présent, direction le Lot.
Là, on est au gouffre de Padirac, dans le Lot. Donc là, on est au fond du gouffre, 75 mètres de profondeur. On a un morceau de ciel bleu circulaire au-dessus de nous.
Il n'est pas complètement circulaire, hein.
Pas complètement circulaire, mais voilà, à peu près 35 mètres de diamètre.
Alors ça, c'est le travail, évidemment, de l'érosion, de surface, et puis après, des différentes rivières qui, à la fois, ont percolé, mais elles ont fait plus que ça. Elles ont joué un peu un rôle de marteau-piqueur, à force.
Voilà, c'est surtout le rôle d'une rivière souterraine. Il y avait beaucoup plus d'eau par le passé, et ça a creusé d'énormes vides souterrains.
Nous sommes dans ce beau département là aussi du Lot, on est au nord du Lot sur le causse de Gramat, Rocamadour, Martel ne sont pas loin et on va interroger donc pour cette troisième partie les eaux souterraines de ce gouffre de Padirac. Alors Jean-François Mangin est un jeune géologue de formation, 28 ans, responsable des contenus scientifiques de ce gouffre. Alors pour les visiteurs vous avez un kilomètre en fait de rivières qui sont exploitées, mais la rivière elle continue sur une vingtaine de kilomètres et puis vous avez tout un réseau en arborescence. Alors vous imaginez la roche calcaire. Il y a 170 millions d'années, le Jurassique, l'ère des dinosaures qui commence. Et là, eh ben autrefois, c'était le fond de la mer, l'ancêtre de l'océan Atlantique.
Cette mer voilà, va permettre le dépôt de sédiments calcaires. Ouais. Ça va former tout le calcaire de Padirac ici. Et puis voilà, après, les mouvements tectoniques vont faire que la mer, le niveau de la mer va baisser. Le plateau calcaire va se surélever et donc ça va former le sol qu'on connaît aujourd'hui. Et l'altération va faire que les galeries vont petit à petit se creuser, ce qu'on appelle donc le phénomène de karstification.
Et là, vous l'entendez, nous arrivons véritablement dans le domaine de l'eau. On va quand même rappeler quelques mots, Jean-François Mangin, honneur à Édouard Alfred Martel, 1895. Donc c'est notre papa de la spéléologie et donc il découvre ce lieu. Et là, voilà. Il n'est pas bête parce qu'en fait, il achète le territoire.
Voilà, il va créer une société et il va chercher des financements pour ce projet touristique. Donc, il a acquéri pas mal de terrain au-dessus du gouffre, ce qui lui a permis d'aménager le site. Alors, il a découvert cette rivière en 1889 ouais. Et les premières visites ont eu lieu en 1898. Donc, même pas 10 ans plus tard. Ça a été assez rapide au final.
D'accord, donc il a quand même fallu aménager tous ces escaliers ou...
Voilà, les escaliers, l'électricité, début des travaux 1901. C'était une prouesse pour l'époque d'amener l'électricité à 103 mètres sous terre.
On est en train de tourner, voire de tournoyer. Donc là, on suit cette première rivière. On est descendu, on est à moins combien là maintenant ?
Là, on est à 103 mètres sous terre. Mais on reste quand même au-dessus du niveau de la mer. Cette eau, elle va s'écouler doucement, hein, comme ça, sur plusieurs kilomètres, 20 kilomètres au total pour la rivière, jusqu'à la Dordogne.
Alors, toutes ces eaux-là... Elles sont captées, bien évidemment, au sol, à la surface, mais c'est quoi ? C'est des eaux de ruissellement, au départ et qui...
Voilà, c'est des eaux d'infiltration, donc c'est 100% d'eau de pluie, ici. C'est vraiment la pluie qui va s'infiltrer dans le sol, et tout ça, ça va se regrouper en un seul endroit, ici, pour la rivière.
Bon, on prend le bateau, c'est ça, là, maintenant ?
Voilà, on va embarquer.
Allez, Et hop, c'est parti, avec la barque. Sur quand même une eau qui doit être d'une qualité assez incroyable, elle a été filtrée.
Alors c'est ce que beaucoup de personnes croient.
Alors pas du tout.
Mais pas du tout. Effectivement, on a cette fausse impression parce que l'eau est extrêmement claire.
Ouais, non,
mais en fait, elle va capter tout ce qu'il y a dans le sol au-dessus de nous. Donc aussi bien des petites bactéries bonnes que mauvaises.
Oui, c'est qu'on a quand même des excréments qui peuvent être d'ovins, de bovins.
Exactement, voilà, on a des résidus de l'agriculture. On a aussi des petits animaux morts qui vont se décomposer dans la couche végétale au-dessus de nous. Et toutes ces bactéries vont être entraînées dans la rivière souterraine.
Oui.
Donc toutes les eaux souterraines sont considérées comme non potables.
C'est ça, donc c'est un bouillon de culture qu'on appelle.
Exactement.
Bien sûr. Mais il est propre, c'est un bouillon de culture propre. Voilà.
Voilà. Alors on a ici des espèces de crustacés et de mollusques. Et on en a deux principales qui vivent ici à Padirac. Vous avez le Nypharcus. Alors c'est une petite crevette... cavernicole, donc on retrouve dans beaucoup de cavités françaises, qui fait même pas un centimètre de long, hein, c'est extrêmement petit, qui est donc aveugle, dépigmentée, hein, blanche, voire transparente, et elle va manger très peu de choses au final, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture dans cette eau, elle peut ne pas manger pendant plusieurs mois, et elle va donc capter toutes les petites particules qui sont en suspension dans l'eau, donc des débris de matière organique, qui viennent de la surface, des petits morceaux de végétaux, des petits morceaux d'insectes.
Alors nous avons cette crevette pour qui tout baigne, hein, si j'ose dire, et puis donc il y a peut-être une autre espèce qui, elle, est endémique.
Voilà, vous avez un petit escargot qu'on appelle bitinelle. C'est un escargot qui fait même pas 2-3 mm de diamètre.
Oui, c'est-à-dire que la pince à escargot n'est pas utile.
Pas grand-chose ici. Hein.
Pas grand-chose à bouffer.
Et lui, il va plutôt se nicher au fond de la rivière, sous des graviers, à l'abri, vraiment au calme.
Voilà, on vous fait goûter le silence. Qu'est-ce que ce gouffre nous apprend sur l'environnement et l'écologie ?
Alors, toutes ces galeries, en fait, elles sont creusées par une eau qui est très acide, donc une eau qui est très chargée en dioxyde de carbone. Et la quantité de dioxyde de carbone qui se trouve dans l'eau, ça va être directement lié au climat. Donc, si une galerie a pu se creuser ici à Padirac, c'est que très certainement, on avait un climat favorable. Alors, Padirac, ça s'est creusé à l'époque du Quaternaire, en fait, plutôt en climat périglaciaire, donc beaucoup plus froid qu'à l'actuel. Mmh. Et en fait, le froid va accélérer l'absorption du CO2 dans l'eau.
Bon, alors moi, je suis une goutte d'eau. Quel est mon boulot? Quel est mon travail? Qu'est-ce que je capte?
Alors, quand l'eau de pluie va traverser la couche de terre qu'on a au-dessus, elle va capter du CO2, le CO2 qui est rejeté ou contenu dans les plantes. Et donc, cette eau va arriver riche en CO2 sous terre. Et c'est là qu'elle va pouvoir
gratter
voilà, un petit peu tout ce calcaire.
Changement de son. On était dans le calme quasiment absolu. Et là, c'est chantant sous la pluie. Là.
Voilà, alors là, on va arriver dans un endroit assez particulier de Padirac. Jusqu'à présent, on était protégé par une couche d'argile au-dessus de la tête, imperméable. Et dans la salle suivante, cette couche d'argile disparaît. Elle a été en fait érodée il y a très longtemps par la rivière. Et donc, on a directement l'eau de pluie qui arrive dans ce lac. Donc, c'est assez marrant. Parce que si on a un énorme orage, par exemple, on le retrouve le lendemain ici à Padirac. En face de nous, là, on a une stalactite géante. Ce sont des cascades de calcaire en fait, qui s'enchaînent sur 60 mètres de long au total. Juste là, en fait, on a la stalactite la plus grande, la plus longue de Padirac. Elle fait toute la jonction en fait, entre le plafond et la rivière, donc 75 mètres. Ici, on a le point le plus haut de Padirac, sous terre. Là, on a un plafond de 94 mètres.
Et sinon, c'est quoi, après 10 mètres de plus ou 15 mètres de plus?
Une dizaine de mètres.
Et on arrive à la surface.
Et on arrive à la surface. D'accord. Voilà, donc en fait, ce plafond, c'est le futur gouffre de Padirac, en fait. Le plafond va s'effondrer d'ici peut-être 10 000 ans, quelque chose comme ça. C'est pareil, on ne peut pas le dater avec précision.
Non, mais c'est sûr.
Mais c'est quasiment sûr.
Et nous arrivons sur un petit lac.
Voilà, ici on est au lac des Grands Gours. Alors un gour, c'est un barrage naturel de calcaire. Des petites marches d'escalier, on va avoir une rupture de pente assez forte à certains endroits.
Salle du Grand Dôme à présent. Et on voit donc ces gouttes qui tombent et qui en fait s'éclatent littéralement.
Voilà, elles tombent du plafond. Alors ici, sur un lac qui est donc 70 mètres en dessous, donc on imagine la vitesse de la goutte quand elle arrive au sol, et elle va s'exploser et elle va libérer du CO2, ça va déstabiliser un petit peu l'équilibre chimique de la goutte d'eau et ça va faire solidifier le calcaire et ça va construire petit à petit la stalagmite.
Quand on regarde ces concrétions, il y en a certaines qui sont noirâtres. Ça veut donc dire que ça, c'est un apport du sol de l'extérieur.
Voilà, on a des traces crème, brunes et noires. Donc ça, c'est des petites particules, des acides en fait, qui sont contenus dans la terre et qui vont être emportés par l'eau au moment de sa descente.
Donc lorsqu'un agriculteur balance du lisier, c'est déjà arrivé ça?
Oui, on peut retrouver des petits débris de la surface de l'agriculture. Bon, c'est pas génial, hein, mais malheureusement, ça se ressent ici quelques heures, quelques jours après. Pour la petite anecdote, hein, les gouffres, on s'en servait beaucoup à l'époque pour jeter des carcasses d'animaux. Et Monsieur Martel, en buvant l'eau d'une rivière souterraine, a failli s'empoisonner, justement à cause des petites bactéries qui étaient contenues dans l'eau et qui provenaient d'une carcasse de veau un petit peu plus haut. Donc c'est grâce à lui aussi qu'on a inscrit dans la loi le fait d'interdire de jeter toutes sortes de déchets dans les gouffres pour polluer les rivières souterraines.
Bon, et on peut ne pas être mouillé parce que vous êtes un formidable conducteur de bateau.
Voilà, il faut éviter les gouttes en permanence, surtout au printemps quand il y a énormément d'infiltration. Donc il y a des règles de conduite comme sur la route.
Je comprends. Qu'est-ce qui vous plaît, Jean-François, dans ce lieu?
Moi, ce qui me plaît, c'est la diversité des choses qu'on peut observer ici. Déjà, l'entrée monumentale du gouffre, 75 mètres de profondeur. Et c'est surtout pouvoir observer en direct une rivière souterraine qui s'écoule. Alors bien sûr, elle s'écoule beaucoup plus lentement que par le passé, mais on est quand même toujours en réseau actif, alors presque plus aujourd'hui, mais on observe toujours des infiltrations. Et moi, ce qui me fascine, c'est surtout d'observer le gouffre en hiver ou au printemps, quand on a énormément d'infiltrations. On a des énormes cascades d'eau qui arrivent à l'intérieur du gouffre. Et voir des cascades comme ça à l'intérieur d'une salle, c'est assez impressionnant.
Eh ben, merci Jean-François Mangin. Allez sur le site de CO2 parce que vous avez une vidéo donc de Palira qui est tout à fait intéressante. Fin de ce méli-mélo, vous l'avez compris, donc de sujet. Vous avez remarqué, on a commencé au-dessus des nuages avec le pic du Midi de Bigorre. Nous terminons sous terre. Eh ouais, c'est ça. Et entre les deux, donc il y avait un petit bout de Corbière. En tout cas, j'espère que cela vous a fait du bien. Vous pouvez retrouver cette émission bien sûr en podcast, hein, comme la Tulu Mon Petit Loup d'ailleurs. Merci à Arnaud Caillet à la technique, à Camille Blanès, à mon coloriste réalisateur donc Xavier Pestugia, Thierry Dupin, Anne Gouzon donc qui nourrit les sites de CO2, mon amour. Et puis la semaine prochaine, ça va être la réserve de vie sauvage dans le Vercors, puisque 20 000 d'entre vous donc ont acheté un petit bout de cette réserve qui a fait bien, c'était bien chaud. Hein, c'est un sujet un peu politique sur place dans la Drôme, donc c'est tout à fait intéressant avec donc les gens de l'ASPAS. Le répondeur va reprendre du service. Donc le répondeur, avec vos annonces, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vous pouvez y aller. Pas 5 minutes, hein, c'est pas la peine. Non. Enfin, vous savez vous tenir. 01 56 40 40 35 01 56 40 40 35. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et vous dire que dans quelques instants, vous retrouverez une journée particulière.